à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en universel du jeudi 10 mai 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. Le Pentagone qui publie les résultats de l'enquête sur la mort de 4 soldats américains dans une embuscade au Niger et évoque des manquements dans la conduite de la mission. L'opposition guinéenne annonce la suspension de son dialogue avec le pouvoir et la reprise des manifestations. Au Kenya, la rupture hier soir d'un barrage fait au moins 41 morts dans le centre du pays. Après les frappes israéliennes contre des installations iraniennes en Syrie, la Russie appelle au dialogue, tandis que Washington soutient le droit d'Israël à se défendre. Puis les 3 Américains qui étaient détenus en Corée du Nord sont rentrés aux États-Unis. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le ministère américain de la Défense a rendu public ce jeudi un rapport d'enquête sur la mort de 4 soldats américains au Niger lors de combats avec des djihadistes. L'armée américaine met en cause des procédures contradictoires et ambiguës dans l'opération menée en octobre dernier. Le point avec Idriss Fall.
La conférence de presse est tenue au Pentagone. Elle était dirigée par le général Thomas Waldhauser, qui est le commandant-chef de AFRICOM. Le chargé de l'enquête au niveau de AFRICOM, le major-général Robert Cloutier, et tout ceci en présence de Robert Carême, qui est l'adjoint au secrétaire à la Défense pour les affaires de sécurité intérieure. Ça a pris au moins 6 mois. Les enquêteurs ont recueilli les témoignages de 144 personnes, dont 37 survivants. Ils ont voyagé dans 6 pays. Ils sont allés sur le terrain de l'attaque. En condensé, ce qu'ils ont recueilli, c'est un rapport de 6000 pages, dont le condensé de 8 pages a été remis aux journalistes. Donc, les enquêteurs ont blâmé des procédures contradictoires et ambiguës dans la prise de décision et aussi dans le manque de caractérisation claire de qu'est-ce que c'était l'opération qu'ils devaient faire dans une région qui est très, très dangereuse. Donc, pour l'essentiel, ils n'ont pas pris de sanctions en sens disciplinaire contre peut-être 2 ou 3 capitaines qui étaient sur place qui ont un peu traficoté les ordres de mission. Donc, pour le moment, c'est ça. Mais ce qu'ils disent, c'est que les soldats américains et nigériens ont été débordés, si j'ose dire, parce que les assaillants étaient plus d'une centaine.
Beaucoup plus nombreux.
Voilà, beaucoup plus nombreux. Et aussi, je pense que l'aide, quand ils ont appelé du renfort, il a fallu plus d'une demi-heure pour que les renforts arrivent sur place. Ils ont remercié la France qui a envoyé 2 Mirages là-bas qui ont plus ou moins aidé à dissuader les assaillants. Les 4 soldats américains qui ont été tués, ils sont tous morts au combat. On ne les a pas arrêtés, tels que certains médias l'ont rapporté, mais que plutôt, c'est après leur mort qu'ils ont été dépouillés.
C'est un peu ce que nous, Vieux Afrique, nous avions dit. Hein.
Absolument.
Donc, ils confirment plus ou moins ce que...
Ils confirment, sauf qu'ils n'ont pas répondu clairement sur à partir de quand la mission des Américains a changé. Ils ont passé la nuit là-bas, vers Tongo Tongo. Le matin, ils sont venus dans Tongo Tongo. Et la mission a changé de nature parce qu'ils se mettaient maintenant à rechercher un proche de Abu Adnan al-Sakhrawi. Je pense qu'à l'époque, on avait donné même le nom de Dondou Chefou. Ils ne l'ont pas cité. Et qu'ils le recherchait en rapport avec un Américain qui était enlevé dans la région depuis 1 an et demi, ce qui a été fatal.
Idriss Fall. En Côte d'Ivoire, 149 personnes ont été condamnées à l'issue de 30 procès liés à la crise post-électorale. C'est ce qu'a annoncé la justice ivoirienne qui donne ainsi pour la première fois un bilan. L'opposition guinéenne a annoncé la suspension de son dialogue avec le pouvoir qui refuse, selon elle, de trouver une solution au contentieux des élections locales de février. Elle a également prévu une reprise de ses manifestations par une journée ville morte à Conakry lundi. En Centrafrique, une marche de protestation contre les violences à Bangui, à l'appel d'un opposant, a été dispersée par la police. Par crainte de violence, boutiques et magasins ont aussitôt fermé et les taxis-motos et les minibus de transport de passagers ont quitté précipitamment le centre-ville, selon l'AFP. Au Kenya, au moins 41 personnes sont mortes et 36 blessées à la suite de la rupture du barrage privé Patel près de Nakuru. C'est dans le centre du pays. On fait le point avec Nathalie Barche.
Les services de secours ont été à pied d'œuvre toute la nuit pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. Le barrage était utilisé pour l'irrigation et entouré d'habitations de fortune d'ouvriers agricoles. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Selon la Croix-Rouge kényane, au moins 500 familles ont été affectées par la catastrophe. Un centre d'enregistrement a été ouvert sur place pour réunifier les familles et signaler les portées disparues. La présidence s'est dite attristée par les pertes en vie humaine et a salué le travail des équipes de secours. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Plus de 170 personnes sont mortes au Kenya depuis mars et 215 au Rwanda depuis janvier à cause des pluies torrentielles en Afrique de l'Est ayant entraîné des inondations et glissements de terrain.
En Afrique du Sud, un imam a été tué, deux personnes gravement blessées lors d'une attaque au couteau dans une mosquée de la banlieue de Durban. La raison de l'agression n'est pas encore connue. Après la prière de la mi-journée, trois hommes, présentés par les médias locaux comme des Égyptiens, sont entrés dans une mosquée de la ville de Verulam et s'en sont pris à un imam, un fidèle et un concierge. Avant de s'enfuir en voiture, les assaillants, qui disposaient selon des témoignages d'armes à feu, ont lancé un cocktail Molotov dans la mosquée qui a partiellement pris feu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La tension est montée d'un cran entre l'Iran et Israël. L'État hébreu a bombardé des dizaines de cibles iraniennes en Syrie en représailles à une attaque attribuée à l'Iran. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après Tel Aviv, une brigade iranienne a tiré une vingtaine de roquettes vers une partie du Golan occupée par Israël. Les tirs iraniens n'ont pas fait de victimes selon l'armée israélienne, qui ajoute que quatre des projectiles ont été interceptés par le système de défense anti-aérien. Les représailles israéliennes ont tué au moins 23 combattants, dont 18 étrangers, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'État hébreu a assuré ne pas chercher l'escalade, tout en se déclarant prêt à tous les scénarios. « J'espère que cet épisode est clos », a déclaré Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense. Washington soutient le droit d'Israël à se défendre. Berlin a dénoncé une grave provocation iranienne. Moscou a appelé Israël et l'Iran à la retenue. Londres et Paris les invitent à la désescalade. Les tensions ont été ravivées par la querelle sur le nucléaire iranien. Israël a toujours été contre l'accord de 2015. Peu avant le retrait des États-Unis de cet accord, le premier ministre israélien avait dit avoir des preuves que Téhéran cherche à se doter de l'arme atomique, ce qui a aussitôt été démenti par l'Iran.
Par ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l'Iran avait franchi une ligne rouge en tirant des roquettes vers Israël depuis la Syrie. Notre réaction a été en conséquence, a-t-il dit. La Russie et l'Iran vont poursuivre une étroite collaboration sur l'accord sur le nucléaire après la décision du président Trump de se retirer de ce texte. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov et son homologue iranien Abbas Araghchi se sont dit attachés lors d'une rencontre à Téhéran à sauvegarder l'accord signé en 2015. C'était bien avant l'aube ce matin, mais le président Donald Trump était à la base Andrews Air Force près de Washington pour accueillir les trois Américains qui viennent d'être libérés par Pyongyang. Bagasekoura.
Peu avant 3h du matin, heure de Washington, le président américain et la première dame Melania Trump sont montés à bord de l'avion qui ramenait les trois hommes sur la base militaire Andrews près de Washington. Le secrétaire d'État Mike Pompeo avait fait le déplacement à Pyongyang pour rencontrer le leader nord-coréen. La deuxième fois en un mois. C'est une nuit très spéciale pour ces trois hommes extraordinaires, a affirmé M. Trump lors d'un échange avec les journalistes sur le tarmac, les anciens détenus visiblement très émus à ses côtés. Dans un tweet matinal ce jeudi, le président Donald Trump a aussi indiqué que sa rencontre historique avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un aura lieu le 12 juin à Singapour.
En France, la famille d'une femme de 22 ans morte après avoir été raillée au téléphone par les secours qui ont refusé de la prendre immédiatement en charge la famille a réclamé justice. Que justice soit faite, c'est cela notre première préoccupation pour cet enfant qui était aimé de tous, a déclaré le père de Naomi Musenga au cours d'une conférence de presse à Strasbourg. En Malaisie, Mahathir Mohamed, 92 ans, a prêté serment comme Premier ministre, devenant le plus vieux dirigeant élu au monde après la victoire de l'opposition aux législatives. Vêtu d'une tenue traditionnelle musulmane malaisienne, il a prêté serment devant le roi Sultan Mohamed V. Et puis le géant chinois des télécoms ZTE a suspendu une grande partie de sa production après une sanction des États-Unis qui menace sa survie et envenime les différents commerciaux entre Pékin et Washington. ZTE est devenu un dossier emblématique de la bataille technologique entre les deux puissances mondiales. Les États-Unis ont interdit mi-avril toutes les exportations pendant 7 ans de composants américains destinés à ZTE. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manila Kizar qui nous présente la Minute Éco.
La plupart des devises africaines ont perdu environ 20% de leur valeur entre 2013 et 2016, d'après la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Cette situation a eu plusieurs influences négatives sur les économies africaines à travers les entreprises. La baisse des cours des matières premières est à l'origine de la dépréciation qui a aussi provoqué des crises de liquidité. Une stabilisation du cours des devises en Afrique australe notamment a permis une amélioration en 2017. La BAD envisage de mobiliser 170 milliards de dollars pour de nombreux projets de construction de routes, de ports, d'aéroports qui respectent les standards internationaux. La BAD veut combler le déficit de l'Afrique dans le domaine des infrastructures. Le constructeur automobile américain Ford a suspendu temporairement la production de son pick-up F-150 qui a provoqué des ruptures d'approvisionnement. La fermeture provisoire de la principale usine d'assemblage de Dearborn dans le Michigan va envoyer 4000 personnes au chômage technique en début de semaine. 3600 salariés de la seconde usine de production à Kansas City dans le centre du Missouri ont été contraints de rester chez eux. Ford explique que manquer de pièces importantes pour fabriquer ce véhicule le plus vendu aux États-Unis, la marque à l'ovale bleu coûte à partir de 46 700 dollars le véhicule. En avril, ses ventes ont augmenté de 4% sur un an. Les productions de General Motors, de Fiat Chrysler et de Mercedes-Benz sont également perturbées.
Et on passe au sport, c'est avec vous Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
15e tour cycliste international du Bénin, la domination du Burkina Faso se poursuit.
Et oui Abdou, à l'issue de la 3e étape Klibo-Dassa-Zoumné, 115 km, c'est le Burkinabé Salfo Bikienga qui est arrivé en tête devant ses compatriotes Salifou Yarbanga, 2e, et Abdoulaziz Nikima, classé 3e. Déjà vainqueur de la 2e étape hier, Salifou Bikienga conserve donc son maillot jaune. 4e étape demain vendredi et ça se court entre Abomey et Lokossa, longue de 78 km.
Du football, 6 arbitres africaines vont officier au mondial féminin des moins de 20 ans.
Oui, il y a des arbitres africaines tout à fait Abdourahmane. La FIFA a dévoilé aujourd'hui même la liste des officiels retenus pour les matchs de la Coupe du Monde des moins de 20 ans féminins. Au total, 15 centrales et 30 assistantes ont été retenues. Parmi elles, 6 issues du continent africain. L'éthiopienne Lydia Tafese Abede et la zambienne Gladys Lengwe sont les arbitres centrales retenues. Elles seront accompagnées par les assistantes Bernadette Tar, Kumbira du Malawi, Marine Jor Roge du Kenya, Ledwin Rako Tozafinoro de Madagascar et Quincy Victory de l'île Maurice. Le Ghana et le Nigeria représenteront le continent à cette compétition qui aura lieu du 5 au 24 août 2018 en France.
Les États-Unis accueillent un grand du foot, Wayne Rooney arrive en MLS.
Et oui, l'international anglais a trouvé un accord de principe pour rejoindre l'équipe de DC United à Washington ici même. D'après la presse britannique, l'offre faite à l'attaquant de 32 ans porterait sur un contrat courant jusqu'en 2020 avec un coût de transfert estimé à 17 millions d'euros. Wayne Rooney, qui a rejoint Everton il y a 12 mois en provenance de Manchester United, a encore un an de contrat avec le club qui l'avait fait débuter en Premier League à seulement 16 ans.
Un mot peut-être en basket.
Oui, Abdou, le dernier billet pour les finales de conférence à NBA est revenu à Boston, qui a défié Philadelphie de Joel Embiid, bien sûr, tombé 114-112.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour et on démarre par la Corée du Nord qui a relâché 3 Américains qui étaient emprisonnés à Pyongyang. Ils sont arrivés sur la base militaire d'Andrew, près de Washington, à bord de l'avion du secrétaire d'État Mike Pompeo. Pour un commentaire sur cette évolution, Eric Manirakiza, adjoint à Washington, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Oui, bien sûr, c'est une victoire. Je suis sûr que le ministre des Affaires étrangères, M. Pompeo, est allé voir Kim Jong-un et il a dit que le peuple américain ne peut pas autoriser le président Trump à aller parler avec vous tant que vous avez des otages américains. C'est inadmissible. Il faut les relâcher si vous voulez vraiment commencer un dialogue. Donc, M. Kim Jong-un a bien compris et il a libéré les otages.
Trump a remercié Kim Jong-un, c'est quand même inédit.
Ça me trouble un petit peu parce que Kim Jong-un, comme un des pires des dictateurs dans le monde, il est reconnu maintenant par président Trump comme légitime. Je crois que c'est un peu tôt pour agir comme ça. Mais M. Trump, après les critiques sur sa décision sur l'accord d'Iran, il a besoin d'une victoire maintenant. Donc, il veut bien avoir un bon dialogue avec la Corée du Nord.
Il y a des signes d'apaisement qu'on voit depuis les Jeux olympiques tenus en Corée du Sud, qui mène la cadence d'après vous, Pyongyang ou Washington?
Je crois que c'est Pyongyang. Tout le monde s'interroge sur pourquoi Kim Jong-un fait ça, parce que jusqu'à les Jeux olympiques, il était très dur, il a insulté Trump, il était vraiment difficile, mais je crois qu'il a des problèmes. Il a des problèmes surtout économiques. 3/4 de la population en Corée du Nord crève de faim. Et je crois qu'il y a des gens dans l'armée plus jeunes qui sont dangereux parce qu'ils voient leur famille crève de faim. Et aussi, il a eu 2 entretiens dans 2 mois avec le président de la Chine. Ça, c'est très important. Et je suis sûr que le président de la Chine a dit il faut changer votre économie, il faut adopter le capitalisme que nous avons fait après la mort de Mao Tse-tung il y a 30 ans. Et surtout, nous, la Chine va vous donner une garantie sur votre sécurité. Personne ne va vous attaquer.
Et vous pensez qu'il peut renoncer à son arsenal nucléaire?
Ça, c'est très, très, très difficile. Tout le monde, tous les analystes disent qu'il ne peut pas parce que c'est sa seule protection contre la Corée du Sud. Mais moi, je crois qu'il a vraiment besoin de changer son économie et pour soi, il a besoin des investisseurs, surtout de la Corée du Sud et du Japon et des États-Unis. Et il ne faut pas oublier que depuis son arrivée au pouvoir, il a éliminé un grand nombre de gens, des gens durs, qui ne voulaient pas changer le système marxiste, léniniste, communiste. Et il est prêt à commencer à libérer l'économie. Et pour ça, il a besoin d'investisseurs. Et pour avoir des investisseurs, il faut qu'il fasse un compromis sur le plan politique.
C'était Herman Cohen, joint à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, les 29 membres du gouvernement ont prêté serment ce jeudi au palais présidentiel devant la Cour suprême en présence du président Idriss Déby.
La ministre de l'Aviation, Mme Djibergui Amane Rosine, a cependant refusé de prêter serment au nom de ses convictions religieuses. Elle a été remplacée. Docteur Sitat Yombatina, juriste et enseignant à l'Université nationale du Tchad, nous donne plus de détails sur cet incident.
Le président de la République a reçu hier les trois responsables de confession religieuse au niveau du Tchad pour leur soumettre la question. Et je pense qu'ils ne sont pas entendus parce que le représentant de la foi chrétienne a dit clairement que dans la foi chrétienne, on ne jure pas. Jurer était blasphème, c'est parjure. Et ça a des conséquences, n'est-ce pas, sur la famille, sur même quatre générations. Et donc, eux ne pouvaient pas s'engager. Et donc, ils devaient d'abord se concerter pour voir s'il y avait une formule qui pouvait être acceptée par tout le monde. Mais je pense, finalement, on n'a pas attendu. Aujourd'hui, les ministres sont passés, n'est-ce pas, tour à tour, un à un, devant le président de la République, pour prêter serment. Et donc, certains, je pense, justement, sur la Bible, d'autres sur le Coran, au nom d'Allah, etc.
Justement, parmi ces ministres, il y a celui de l'aviation, du transport et de la météorologie qui a refusé de prêter serment. Pourquoi?
Bon, elle a refusé de prêter serment parce que, justement, elle est non seulement de confession chrétienne, mais responsable également à plusieurs niveaux, je pense, au niveau également de sa congrégation. Et donc, comme je le disais tantôt, dans la foi chrétienne, on ne jure pas. Et donc, elle a décidé justement d'honorer sa foi.
Ne trouvez-vous pas alors que c'est une bonne formule pour les amener à respecter leur engagement?
Non, mais on n'a pas besoin de ça pour respecter les engagements. À partir du moment où il y a un cahier de charge qui est défini clairement, il y a, comment on appelle ça, chaque ministère a non seulement un cahier de charge, mais il y a ce que nous appelons souvent le texte qui régisse, n'est-ce pas, la gestion gouvernementale du moyen général. Toutes ces choses-là sont dedans. Je ne pense pas que c'est cette formule-là qui va arrêter le vol, qui va arrêter le détournement et qui va changer quelque chose, quoi, dans la 4e République. Je ne crois pas du tout. En tout cas, je pense ni moi, ni la majorité des Tchadiens, personne n'y croit.
Le ministre Issa, actuel ministre des Finances, avait été suspendu de ses fonctions pour une affaire de corruption par l'inspection générale du Tchad. Aujourd'hui, il a été promu ministre des Finances. Est-ce que cela augure de la volonté du gouvernement tchadien à lutter contre la corruption dans le pays?
Ah non, mais écoutez, vous le dites si bien, hein, et c'est d'ailleurs, ça fait l'objet de titre, n'est-ce pas, de toute la presse, hein, cette semaine d'ailleurs, hein, faux départ pour le premier gouvernement de la 4e République. Et donc, ce monsieur est suspendu, il a été d'abord ex-chef de division du contrôle des engagements sur le budget d'investissement. Aujourd'hui, n'est-ce pas, par la trace, il devient ministre des Finances. Et donc, tout ça laisse présager, ou bien renforce davantage, hein, le commentaire que tous les Tchadiens font d'ailleurs. Est-ce que vraiment on a la volonté de mettre en œuvre tous les discours qu'on fait?
C'était le docteur Sitak Yombatina, joint par Irénée Herman Nungbo.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les responsables de la santé en République démocratique du Congo mettent les bouchées doubles pour contenir une épidémie d'Ebola déclarée cette semaine. Au moins 2 personnes sont mortes du virus dans un village isolé du nord-ouest de la RDC, très proche de la frontière avec la République du Congo. Les experts de la santé mettent en garde contre toute panique, soulignant le bilan solide de la RDC au cours des dernières années dans la lutte contre Ebola. Jacques Aristide.
Le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Lunga, tient la population au courant de la situation via les médias sociaux. Dans un tweet, ce jeudi, soit environ 24 heures après l'annonce initiale de l'épidémie, il indique qu'une équipe de 12 experts est arrivée à Mbandaka, la ville la plus proche de l'épicentre de la maladie, qui se trouve dans la région de Bikoro, près de la frontière avec le Congo-Brazzaville. L'Organisation mondiale de la santé a débloqué 1 million de dollars de son fonds d'urgence pour stopper la propagation d'Ebola dans les provinces et les pays voisins. Médecins sans frontières mène également la riposte et a dépêché des experts sur place. MSF a confié à la VOA que ces experts se trouvaient à Bikoro. Ce n'est pas la première fois que la RDC est confrontée à la fièvre hémorragique Ebola qui provoque une maladie grave et aiguë, souvent mortelle si elle n'est pas traitée. Le virus tire son nom de l'endroit où il a été découvert, la rivière Ebola, un affluent du fleuve Congo en 1976. Il se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. Le taux de survie moyen est de 50% d'après l'OMS, Tariq Yarasevich, porte-parole de l'organisation.
Ebola outbreak in part of DRC as well. That was
l'année dernière, il y a eu une épidémie d'Ebola dans une partie de la RDC qui a été contenue relativement rapidement. Donc nous espérons faire la même chose cette fois-ci, envoyer rapidement des équipes dans la région où le virus a été confirmé, être en mesure d'identifier les malades et ceux qui y ont été potentiellement exposés, de mettre en place toutes les mesures nécessaires auxquelles on a recours chaque fois qu'il y a eu une épidémie d'Ebola pour essayer d'arrêter la transmission aussi vite que possible.
Cette dernière épidémie s'est produite dans une zone proche des rives du fleuve Congo. Parce que cette région est pauvre en infrastructures, ses nombreuses voies navigables sont vitales pour les activités de transport et de commerce. L'épidémie Ebola la plus violente de l'histoire avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts sur quelque 29 000 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Jusqu'à présent, aucune des récentes flambées en RDC n'a été liée à la maladie en Afrique de l'Ouest. Tariq Yarasevic note que les locaux ont également un rôle important à jouer.
Il est vraiment important que les communautés dans ce domaine particulier soient engagées, travaille avec les autorités en termes de pratiques d'enterrement sûres, en termes de traçabilité des contacts pour se conformer à ces procédures. Un tel engagement communautaire est un élément clé dans la maîtrise de l'épidémie d'Ebola.
Il s'agit de la 9e épidémie d'Ebola sur le territoire de la RDC.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Elle était mise en onde par Sims Loumami. Et donc, présentation Abdourahman Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Au moins 16 personnes ont été tuées dans l'attaque du 1er mai à Notre-Dame de Fatima, église catholique de la capitale centrafricaine Bangui. Elle était le fait d'un groupe criminel dénommé Force, opérant dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Le curé de la paroisse, le père Tunguma Lebaba, figurait parmi les morts. Une violente foule a ensuite attaqué une mosquée à La Kunga, dans la banlieue de Bangui. L'ambassade américaine en République centrafricaine a publié une déclaration exprimant l'horreur et la tristesse au sujet de l'attaque insensée de l'église de Fatima et des représailles subséquentes contre la mosquée de La Kunga. Nous pleurons les décès, de même que les cas de blessures résultant de cet acte criminel, a fait savoir l'ambassade. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles. Les individus à l'origine de cet acte sont des lâches. Ils ne représentent ni les musulmans, ni les chrétiens. Ils ne représentent pas les centrafricains. Ils cherchent seulement à provoquer une sanglante réaction. Les États-Unis exhortent tous les citoyens de la République centrafricaine à ne pas tomber dans le piège de la violence et de la revanche. Cela doit cesser. Les États-Unis condamnent ces actes sans réserve et nous nous tenons aux côtés de tous les centrafricains et pris de paix. Les États-Unis comprennent tout à fait la profonde colère que ressentent les gens actuellement, mais nous implorons tous les citoyens à renoncer à la violence et à regagner leur demeure pour éviter la poursuite du bain de sang. Ce cycle doit cesser pour le bien des enfants du pays et de tout son peuple.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
bord. Les passagers.